Bonjour. Et merci à vous de nous retrouver ici, à Framzell, devant le bar-hôtel-restaurant Le Bistrot. C'est le point de départ du Sens du Vent, randonnée sonore et documentaire, fabriquée par le collectif La Cavale. Vous avez certainement avec vous la carte de la balade. Je vous invite à l'ouvrir afin que nous regardions ensemble l'itinéraire. Le chemin a été pensé en deux parties, l'aller et le retour. D'abord, l'aller, durant lequel vous aurez un casque sur les oreilles et qui vous emmènera jusqu'au pied de l'église Saint-Martin à Tardingan. Le chemin fait 3,5 km environ et le documentaire sonore, 1 heure. Vous avez donc le temps. Alors n'hésitez pas à vous arrêter de temps à autre pour profiter du paysage, tout en écoutant les histoires qui vous seront racontées. Le chemin est simple, mais nous avons relevé 3 points de vigilance. Le premier se situe non loin d'ici, au premier embranchement. Il faudra alors continuer la route sur votre gauche, celle qui est annoncée comme une voie sans issue. La deuxième se trouve après les blocos, lorsque vous aurez tourné à droite, après la petite maison à volets verts. Vous arriverez au croisement de 2 chemins. Il faudra aller à gauche, sur le chemin des Berniques. Le troisième point de vigilance se situe à la fin du chemin des Berniques. Même s'il serait tentant de tourner à gauche pour se rendre sur la plage, nous vous invitons à prendre à droite. C'est la route qui vous emmènera jusqu'à l'église de Tardingan, un peu plus haut. Et puis ce sera le retour. Nous vous proposons de redescendre la route du Châtelet, celle qui mène à la plage, pour rejoindre le GR 120 en direction du Grinet. De là, vous n'aurez plus qu'à redescendre au bourg pour retrouver votre point de départ devant le bistrot. Le retour se fait sans casque sur les oreilles et vous aurez 4,5 km pour profiter du son de la mer, du vent, des dunes et des oiseaux qui s'y baladent. Vous allez maintenant bientôt pouvoir partir. Mais avant de commencer, je vous propose de vous placer devant le bistrot, bien face à lui. À sa droite, il y a une entrée de cour avec un petit portail. Encore à droite, il y a une haie, et sur cette haie, vous pouvez apercevoir un panneau de signalisation qui indique la direction de Floringzell. C'est par là que nous vous invitons à aller. Vous pouvez commencer à marcher et prendre la route. Nous vous souhaitons une bonne balade.
L'histoire est la suivante. En 40, les Allemands, quand ils sont arrivés, ils ont mis dehors la population. Ils sont venus frapper à la porte ici, ils ont dit à mon grand-père, puis mon père qui avait 18 ans, qui venait de terminer ses études, « Messieurs, le camion est dehors, vous montez dedans avec vos vaches, cochons, ouvriers, femmes et enfants, et vous partez. » Donc ils ont eu 2 jours pour partir. Toute la population ici du Cap. Et ils sont rentrés 6 ans après, dans un pays qui était totalement dévasté. La seule maison qui était restée debout, c'était celle-ci. Mais tout le reste était complètement dévasté. Et donc, quand ils sont venus 6 ans après, mon grand-père, il était vieux. C'est mon père qui a pris les rênes. Et ils ont commencé par boucher les trois trous de bombe qu'il y avait dans la cour. Et puis reconstruire, ils ont tout reconstruit, tout refait. Ils ont passé leur vie à ça. Et moi-même, j'ai passé la moitié de ma vie aussi à charrier des milliers de tonnes de terre pour reboucher les trous de bombe dans les champs qui s'étaient réaffaissés, et qui étaient humides, etc., etc. Donc nous, on est. Ça nous ancre, quoi. Hein. Puis toute la population avait été virée et toute la population est revenue. Hein. Tout le monde a retroussé les manches, y compris le curé. Les ouvriers, les patrons, les paysans, il n'y avait pas de touristes à ce moment-là, enfin, très peu de touristes à ce moment-là, donc c'est vraiment la population locale qui a rebâti ce pays. Et donc, comme ici, il y a un projet depuis 10 ans là, de faire un grand site national des deux caps. Hein, qui est un projet intéressant, qui dépend du ministère de l'Environnement. Moi, j'ai dit à mes collègues agriculteurs, j'ai dit, vous savez, là, un projet comme ça, par rapport au grand site, avant de considérer ce projet comme un projet, un de plus, de contraintes environnementales et de contraintes de visiteurs, etc. Avant de commencer à avoir envie de ferrailler dedans comme on fait en agriculture, on a été appris à l'école syndicale à défendre notre revenu à coup de manif, quoi. On devrait peut-être s'intéresser pour savoir ce qu'il y a dedans et voir si on ne peut pas des fois accompagner le projet quelque part et puis avoir des retours même. Alors, c'est de là que un jour le président nous a dit au cours d'une réunion où il avait invité les 40 agriculteurs des 8 communes. Tous les représentants des administrations qu'on n'avait d'ailleurs jamais rencontrés. Ce jour-là qu'on a découvert qui était le représentant du conservatoire, qui était le représentant de ceci et de cela, et ça a été intéressant. Et il m'a demandé publiquement, il dit, Monsieur Delatte, qu'est-ce que vous attendez de nous? Alors moi, je lui ai dit, j'ai écouté, Monsieur le Président, on attend de vous d'abord de la considération. Or. Alors, il en revenait pas, il dit, j'ai jamais entendu, on m'a jamais demandé ça. Ben, j'ai dit oui, parce que dans un grand projet comme ça, il y a aussi des habitants, hein, parce que c'est pas le grand site de la Pointe du Raz ici, hein, c'est pas 14 hectares avec un vieil hôtel et une petite vieille à raser et puis à envoyer en retraite. C'est 8 communes, 10 000 hectares et 15 000 habitants. Donc c'est un site ouvert. Hein. Ce que je lui ai dit, vous savez. Un projet comme ça, emballé par le projet, vous pouvez aussi marcher sur la population sans vous en rendre compte, ça arrive. Hein. Je ne vous soupçonne pas d'être prêt à le faire, mais je vous le dis. Donc on a créé à ce moment-là, il y a 7 ans, l'Association des paysans du Grand Site. Le Grand Site des Deux Caps, c'est un pays agricole, tout simplement. Et on l'est resté parce qu'on est resté très agricole, on n'a pas été trop colonisé par le tourisme, parce que les paysans, ils vendent jamais, ils vendent pas. Et depuis la guerre, ils ont été tellement occupés à reconstruire et à rebâtir leur pays, qu'ils ont jamais eu beaucoup l'idée de le vendre pour faire des sous. Non, non, on est vraiment des paysans passionnés par notre métier, nés là-dedans. Donc j'ai eu une enfance heureuse parce que j'étais passionné par le métier. J'étais au tracteur tous les jours avec mon père, avec les ouvriers et tout. J'étais le nez dans la terre parce que j'étais un paysan dans son milieu. Et tous mes voisins étaient comme ça, hein, tous les enfants de mon âge étaient comme ça. Hein. Et je dis toujours, moi je suis né à Audingan. J'y ai travaillé toute ma vie. Et c'est là que je vais mourir et c'est là que je serai enterré.
Thank you. point de vue. Donc là, on est vraiment pour moi sur un des plus beaux panoramas qu'on puisse avoir dans le secteur, parce qu'on a à droite le cap Blanc-Nez, devant toute la baie de 800, et à gauche le cap Grinet, et avec à nos pieds le marais de Tarnagan qui est en train de se réveiller là. Ah, donc là c'est encore calme, le soleil commence juste à pointer, mais ça va commencer à bouger, on commence à entendre les premiers oiseaux chanter. Et donc ici voilà, pour le lever de soleil, je trouve que c'est vraiment un endroit qui peut être assez magique selon les jours et selon le lever de soleil qu'on a justement. Donc là on a vraiment des prairies humides typiques, hein. On a tous les plans d'eau qui sont au pied, là on peut voir déjà qu'il y a quelques signes, tout à l'heure il y avait des pies tout simplement qui étaient là aussi. Il peut y avoir des aigrettes, des hérons, enfin voilà, il y a pas mal de choses sur ce site. Quand on est arrivé sur le parking, il y avait des cormorans qui quittent un peu en fait, puisqu'il y a une colonie de cormorans en fait qui passe la nuit en général dans les arbres et qui après va un peu se disperser un peu partout. Et puis après sur la gauche, donc on a vraiment toutes les grandes roselières. Et puis en fait, ce qui est bien aussi ici, c'est qu'on a la mer juste en face, donc on peut voir la plage, on entend les vagues. C'est très léger parce que la mer est plutôt calme aujourd'hui, mais je vais regarder peut-être un petit peu avec les jumelles aussi ce qu'on peut voir. On ira après en bas au niveau des plans d'eau, mais ça là c'est assez calme. Le truc c'est qu'on est en période aussi, il y a un héron là sur le plan d'eau. On est en période de migration, donc en fait selon les jours, il peut y avoir beaucoup de monde, comme il peut y avoir plus personne en fait, si tout le monde est parti pendant la nuit. Du coup, c'est un peu plus calme, donc c'est assez variable. Sinon, quand il y a eu les grosses semaines de grand froid là cet hiver, c'était des centaines et des centaines de canards qui avaient trouvé refuge justement ici, sur ces plans d'eau-là et un peu partout, de toute façon sur le secteur, dans les prairies. Et qui venait justement manger dans ces prairies humides, parce que ces prairies humides là sont super riches. Là quand on regarde comme ça, on a l'impression d'avoir un grand tapis vert, mais en fait il y a des dizaines et des dizaines d'espèces de plantes. Là on voit que les iris qui commencent à sortir. Il va y avoir bientôt les lychnis, enfin il y a plein d'espèces de fleurs comme ça, très colorées, et qui vont venir comme ça s'étaler pendant l'année. Et c'est vrai que là c'est assez flagrant parce qu'on a vraiment un étalement de végétation avec les dunes où on a de la végétation qui pousse vraiment sur les milieux secs. Donc on va vraiment avoir des mousses, des lichens, des graminées, des choses qui résistent vraiment, qui sont adaptées à la sécheresse. Et derrière le marais qui est un milieu luxuriant où finalement tout pousse en quelques minutes, quoi. La vie va super vite hein, sur un marais s'il n'y a pas, par exemple ici on met des vaches Highland pour entretenir. Si on ne met pas ces vaches Highland ou s'il n'y a pas les chevreuils ou tous les herbivores naturels, tout ça en quelques années c'est recouvert de sol et puis en fait on perd toute cette végétation là en fait. C'est aussi pour ça que Eden Sandler intervient notamment sur les espaces naturels. Les gens pourraient dire oui mais la nature elle peut se débrouiller toute seule, finalement elle l'a toujours fait. Alors oui c'est vrai, sur des grands espaces elle peut le faire parce qu'il y a des aléas climatiques qui vont faire que finalement le gros bois de sol, une année, il va dépérir parce qu'il y a les sécheresses ou alors parce qu'il y a certains herbivores qui vont venir faire le ménage et qui vont réouvrir tout ça. Avec la végétation, il y a plein d'espèces qui sont inféodées à ça et qui ont besoin d'avoir justement ces zones vertes. Là, par exemple, on a un busard qui est en train de passer, là, juste en bas. Le busard, s'il n'y a pas cette roselière, s'il n'y a pas ces milieux ouverts, il peut pas chasser, en fait. Lui, il est incapable de chasser dans une forêt, dans un bois de sol. Lui, il ne trouve pas sa nourriture, en fait. Donc si on n'a pas ces grandes zones ouvertes au pied des roselières comme on a ici, le busard par exemple il disparaît dans quelques années de cet endroit là, après il trouvera peut-être un endroit ailleurs, mais donc c'est justement pour ça, c'est pour permettre à certaines espèces qui sont vraiment spécifiques à ces milieux là de pouvoir encore continuer à trouver leur habitat.
Et sinon, par chez moi, c'est verdoyant aussi, c'est un peu plus plat aussi. J'ai trouvé des terres en moins d'un an et le terrain est de super bonne qualité. Et du coup, l'espace, le projet de mon propriétaire, c'était qu'on soit plusieurs à cet endroit-là. Du coup, j'ai un collègue qui fait du pain. Donc on est plusieurs, on est vraiment dans une synergie collective, ce que je recherchais aussi. Moi, je suis dans le creux derrière les collines, à l'abri. Enfin, plus ou moins à l'abri, on a toujours du vent, mais... C'est vrai que ça doit être agréable de faire de l'agricole en regardant la mer. Moi déjà, je me trouve hyper chanceuse d'être à 3 km et de la voir quand je rentre chez moi, mais c'est vrai que c'est particulièrement joli. Un truc que je trouve hyper contrastant aussi et qui m'a toujours perturbée étant petite, c'est à quel point c'est sauvage, magnifique, etc. Puis on voit nos homologues d'en face qui ont en plus les mêmes falaises, etc. Et on a des espèces d'immeubles flottants. Enfin, et en même temps, on est dans le détroit le plus emprunté du monde, quoi. C'est des fois des tailles de bateaux qui sont mais incroyables. Des fois, on est sur l'autoroute du côté d'Audenberg. Donc on est sur le haut d'une colline. Et on voit des paquebots dans le port de Calais qui sont tellement grands qu'on a l'impression qu'un immeuble a poussé d'un coup en une nuit sur le bord de mer. C'est assez incroyable. C'est fou. On a quand même des plages qui font des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Parce que du coup, moi, en grandissant, j'ai toujours connu les plages qui faisaient des kilomètres. Et... partout ailleurs ou après on va, je suis toujours dans le sud ou à Marseille, où des genre 5000 sur 10 mètres carrés. c'est impressionnant.
Moi, mon nom de jeune fille, c'est Louf. C'est un nom de famille assez commun dans le Pas-de-Calais et le Nord. Souvent de boucher chevalin, bizarrement. Donc, c'est un nom connu et c'est un nom qui veut dire plein de choses, mais souvent des termes de marine comme loffé. Voilà, donc je suis une Louf c'est mon pays, quoi, ici. C'est vraiment... Je suis une fille des deux caps, une fille d'Audrecelle, une fille de cette région. Moi, j'ai toujours vécu au bord de la mer, j'ai grandi au bord de la mer. La mer, depuis que je suis petite, je lui parle comme à une personne. Quand j'étais gosse ici, au début des vacances scolaires, la première chose que je faisais, c'était... me mettre au bord de la falaise et de hurler « Bonjour la mer !» Et quand on partait, il fallait toujours que je dise « Au revoir à la mer !» Mais c'est pour moi, la mer, c'est comme une personne. D'ailleurs, j'aime beaucoup nager. Je nage pas tous les jours, mais je nage très souvent. Et je dis toujours que l'océan, c'est mon amant préféré. Parce qu'il n'y a personne qui peut me toucher partout en même temps à la fois. Et donc j'ai vraiment une relation charnelle avec la mer. Elle est belle tout le temps. On peut faire la même promenade tous les jours de l'année, elle est toujours différente, toujours, toujours différente.
Je suis arrivé ici en 88 à 22 ans. Et ça fait 33 ans que j'y suis. Donc d'abord en gestion de l'entreprise. L'entreprise ici appartenait à un industriel, la cristallerie d'Arc. Et puis comme j'avais transmis la passion aux enfants, en 2005 j'ai demandé à reprendre l'entreprise et je l'ai reprise au 1er janvier 2006. Et puis, on va dire, ça a bien marché. Et en 2015, Romain a rejoint l'entreprise. Il l'a rejoint en 2010. Il a fait 5 années d'aide familiale. Et en 2015, là, il a repris des parts. Et on a investi pour produire les 300 ml de lait que Sodial lui a donné. Un cadeau empoisonné. Hein. Quand on vous donne souvent quelque chose, c'est trop cher. Et puis, en 2016, est arrivée la crise du lait. Tu vas terminer de laver, Alexis ? On termine d'arroser ? Je vais aller faire les derniers mots. À la fin des quotas, on a tous cru qu'en produisant plus, on allait gagner plus. On est tous tombés dans le panneau. Donc on a continué d'encombrer le marché. Et puis on a eu la crise laitière. Aidés par les Chinois. Ils sont toujours là pour nous aider quand il faut pas. On va dire qu'on a eu notre Covid déjà en 2015 en tant que producteur de lait. En 2014 et 2015, les Chinois ont acheté à outrance avec des promesses pour les années futures. Certaines de nos laiteries ont d'ailleurs investi avec les Chinois. Et puis en 2016, rideau. Plus aucun achat des Chinois. Donc marché encombré. Le lait qui perd 70 euros du millilitre. D'un an sur l'autre. Donc en 2 ans, il nous a manqué plus de 100 000 euros par rapport à ce qu'on pensait en termes de produits. Et on n'est pas encore remis de ça. Hein. Et malheureusement, comme on a investi, on est obligé de continuer à produire. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé où beaucoup de consommateurs ne savent pas comment ça se passe en ferme. C'est pas le beau tracteur qui passe sur la route, dans le village, dans les champs, qui est un signe de richesse. Non, c'est souvent un signe de surendettement, mais qui est un mal nécessaire pour faire face aux aléas climatiques. On a de moins en moins de temps pour faire les travaux, donc il faut y aller. Et l'année où, on va dire, il y a une bonne année, notre fiscalité, elle est faite en sorte que forcément... La première incitation, c'est l'investissement et l'endettement. Sauf que c'est très bien s'il n'y arrive pas de mauvaises années derrière. Mais ça, personne ne le sait. Celui qui dit, vas-y, parce que tu vas payer des impôts, tu vas payer de la MSA, change ton tracteur, change ta benne, change ci. C'est la même personne qui, 2 ans après, ouais, mais il ne fallait pas investir autant. On va s'en sortir, mais après pas mal d'années de galère où, on va dire, Nous, on va y arriver, mais j'ai quand même un paquet de collègues et des connaissances qui n'ont pas forcément supporté le poids de l'investissement, les relances sans cesse des fournisseurs. Et puis, il y a trop d'éleveurs qui n'ont pas supporté cette pression et qui n'ont vu que seule issue, non pas se battre avec la banque pour tenir, mais de prendre une corde et se terminer dans la salle de traite. C'est pas normal. Donc si tous les circuits courts peuvent redonner une dynamique, parce que quoi, ça n'est qu'une demi-heure passée avec un consommateur, qui fait qu'on est reparti pour 8 jours, hein, parce qu'on y croit, on croit en ce qu'on fait, parce que le consommateur, il est content d'avoir goûté votre fromage, il est content d'avoir fait le barbecue avec les viandes que vous avez produites. Et puis voilà, le moral est retourné, il faut peu de choses.
J'ai l'impression de travailler pour moi, ce qui... Et pour... En fait, je pense que j'ai cet avantage d'avoir... Je fais que de la vente directe, donc je suis directement en lien avec mes consommateurs. J'ai une AMAP, du coup, c'est des familles qui s'engagent sur un an à me soutenir et à prendre des paniers chaque semaine, qui me payent d'avance. Du coup, c'est vraiment un contrat solidaire où ils s'engagent si j'ai des problèmes. À accepter que leur panier soit plus petit une semaine. Et par contre, si j'ai de la surproduction, ils acceptent de prendre les 4 kilos de tomates, ou des fois les 8, et à les transformer eux-mêmes et à éviter le gaspillage, etc. etc. Et en fait, toutes ces personnes-là... enfin voilà, je nourris des familles directement, et j'ai des retours directs de ma production. Enfin, ce qui m'émeut toujours, c'est que, enfin, y a pas mal de jeunes couples qui ont des enfants. Son premier repas, ça va être tes carottes. Ah ben, je meurs. C'est trop d'émotion, quoi. Et en fait, moi, j'ai tout ce support humain là derrière, de gens qui sont déjà venus sur ma ferme, qui connaissent mon travail toutes les semaines. Ben, voilà, si j'ai pas le moral, je leur dis parce que ben, ça a été dur cette semaine, ou j'en peux plus, je suis sur les rotules parce que c'est la fin de la saison. Voilà, avec le Covid, ben, je vois pas grand monde, etc. Et j'ai toujours... j'ai ces gens-là qui ont du coup... Et j'ai l'impression d'être respectée par ces gens-là, au moins. Et je pense que certains agriculteurs peuvent avoir l'impression de ne pas être respectés par leur laiterie ou par les coopératives de manière générale. Et du coup, moi, ça a beaucoup de... J'ai beaucoup de sens et je pense que c'est ça qui fait que... Que c'est possible. Moi, je suis dépendante des aides à 5%. Le jour où ça s'arrête, j'ai pas de problème à vivre. Enfin, ça changera pas énormément de choses, mais on se rend pas compte. Les gens se rendent pas compte que le système dans lequel on est et la façon dont ils consomment aussi maintient l'industrialisation de l'agriculture et du coup la pollution, l'endettement des agriculteurs, le suicide des agriculteurs. Moi j'ai mal pour mes voisins et pour les agriculteurs qui n'ont pas le soutien que moi je peux trouver chez mes consommateurs. Je pense que c'est ça qui fait toute la différence pour moi. C'est d'avoir des gens, de les connaître et puis d'avoir le retour direct et qui connaissent mon métier, quoi. Qui connaissent la réalité. Parce qu'en plus, tous les ans, je leur partage mes chiffres. Donc, ils savent exactement ce que je gagne chaque mois ou comment chaque euro que je gagne, comment comment il est redépensé dans ma ferme, en fait. C'est complètement transparent. Et voilà, c'est eux qui fixent mon salaire. Moi, je vois la mer, surtout. La mer, les côtes anglaises. Et après, c'est le bocage. Le bocage, et ici, il est un peu marécageux. Et j'avais jamais remarqué comme l'eau remontait sur cette partie-là. Mais ouais, et puis, bah ouais, forcément, l'élevage, les vaches, etc. Et puis, la couleur, comme je disais, que j'adore ici, les dégradés de bleu. C'est hyper beau, c'est un tableau et c'est hyper préservé. On n'a pas de. Sur la côte. Enfin, à chaque fois qu'on va sur des côtes balnéaires et tout ça, on voit des grands immeubles d'hôtels ou de ce genre de trucs en béton, etc. Que ici, c'est resté des vieilles fermes et c'est hyper préservé, super beau. Est-ce qu'il ne ferait pas un petit peu de pâturage tournant dynamique ? Ce monsieur. Séparer les prairies en plusieurs parties pour optimiser le broutage de l'herbe et puis avoir une meilleure gestion de la fertilité des prairies. En tout cas, toutes les petites parcelles comme ça, ça fait penser à ça. Et du coup, oui, je suis assez passionnée par... tout ce qui se passe dans le sol, qui amène une plante à pousser ou pas. Et alors c'est marrant parce que aucune idée de où ça vient, parce que mes parents sont informaticiens, ma grand-mère était institutrice, mon grand-père dans la marine, l'autre grand-père était dans l'agricole mais est devenu gendarme, mon autre grand-mère était femme au foyer. Mais quand on en reparle maintenant avec la famille, ma grand-mère disait, de toute façon, il suffisait de te poser par terre. On te pose par terre, tu creuses des trous. Et je me souviens petite que mon père et ma mère me demandaient toujours si j'étais allée gratter dans le bac à fleurs de la cour de l'école, parce que je rentrais avec les ongles noirs et j'avais effectivement fait des trous. En fait, c'est de manière générale, ouais, ça me passionne, toutes ces... Enfin, toute l'histoire qu'on peut retracer dans un paysage avec les sols, justement. Ici, d'ailleurs, on est dans la boutonnière du Boulonnais, ça s'appelle. Et en fait, on a vraiment la roche calcaire qui est mise à nu et qui est ailleurs dans le nord de la région, recouverte d'une épaisse couche d'argile. Et on partage cette similitude uniquement avec le Kent de l'autre côté de la Manche. Et du coup, on a une faune et une flore vraiment hyper typiques de ces milieux-là. Il me semble qu'il n'y a que 6 endroits comme ça dans le monde avec ce type de caractéristiques pédologiques, etc.
Là, c'est vraiment de l'écorce. C'est genre des dizaines de milliers d'années, mais...
Oui. C'est hyper compact, non ?
Pas hyper compact, non, mais...
Super.
Voilà, là. C'est bon, hein.
Là, il y a une branche.
On était venu en vacances au Cap Griné, parce qu'on aime bien. Enfin, ça fait longtemps qu'on est qu'on aime bien la mer. Et c'était en hiver, pardon, j'ai oublié de préciser, mais on était venus en vacances au Cap Grinet, aux vacances de Noël. Parce qu'on aime bien la mer en hiver et le côté sauvage, désertique. Et puis on est venu se promener ici à la plage du Châtelet à Tardingan parce que moi j'avais des souvenirs d'enfance ici. Et on a eu besoin de faire chauffer un biberon pour Théophile qui est à côté de nous là, qui avait quelques mois. Et en fait mon mari a frappé à la porte d'une maison là à côté de la plage pour faire chauffer le biberon. Et il a été gentiment accueilli par une personne qui a fait chauffer son biberon, qui dit « Ah, vous êtes de Lille ? Ben, y a plein de gens qui habitent ici et qui travaillent à Lille. » Et ça a été la première petite étincelle. Et elle nous a expliqué que le TGV Lille-Calais, c'était une demi-heure, donc il y avait beaucoup de gens qui avaient fait ce choix de vie. C'est un gros changement, mais on est tous les deux originaires de la campagne. C'est pas qu'une lubie de citadin, on savait quand même un petit peu à quoi ça ressemblait. Et puis à un moment, on a eu une idée, on s'est dit, mais en fait, il y a des gens qui partent un an faire le tour du monde, nous, on va aller un an vivre là-bas. Si on trouve quelqu'un qui prend notre appart à Lille pour un an, et ben nous, on va un an là-bas. Et en fait, c'est ce qui nous a mis le pied à l'étrier, et c'est comme ça qu'on est arrivé ici. On a trouvé quelqu'un qui voulait bien notre appart assez rapidement, et donc on est arrivé là. Voilà, et puis donc c'était rigolo, quoi. C'était un peu une aventure familiale. Moins extraordinaire sur le papier que faire le tour du monde, mais quand même sympa. Et voilà, et puis au bout de quelques mois, on était ici, on s'est dit, bon, bah finalement, ça nous plaît, allez, banco, on y va. Et ça fait maintenant 7 ans, 8 ans. Et puis en fait, les enfants, ils sont contents.
Nous, quand on allait déménager les affaires de Lille, je découvrais la maison. Bon, quand même, pour moi, je suis... Ma racine, c'est ici, quand même. C'est trop bien, la mer, puisqu'on peut faire plein de trucs. Là, par exemple, quand je vois ça, je me dis qu'on pourrait faire ou alors du paddle ou alors du ski. Mais la mer, c'est carrément un autre univers. Il y en a qui sont chacun a son truc. Moi, j'aime bien la mer. Avec maman, on vient souvent se balader, mais quand il y a des gros coefficients avec des tempêtes, c'est amusant. On distingue un peu des côtes anglaises. Là-bas, il y a un voilier. Un autre là-bas. Là-bas, je pense que c'est un bateau. Mais souvent, il y a des gros cargos. Là encore, il n'y en a pas beaucoup, mais sinon, il y a beaucoup, beaucoup de bateaux. Bah, je crois que c'est le détroit le plus passé au monde. Mais il y a des... Là, il n'y a pas de vagues, mais ça fait un peu des clafoutis. La couleur, sur le bord, c'est un peu marron. Et puis après, c'est bleu, gris, foncé. Parfois, on voit des compagnies de cargo, mais c'est dans les cargos les plus gros du monde. Papa, il reconnaît les initiales. C'est un truc dingue. C'est énorme. Il y a combien de personnes à bord de ça ?
Ce qui est marrant aussi, c'est d'imaginer ce qu'il peut y avoir dans les containers.
Il y a des poupées. Alors, des skates. Après, il y a un cristal. Il fait du surplace. C'est un des ou le seul à pouvoir faire du surplace, l'oiseau. C'est un faucon cresserelle, je pense. Là, il fait les Saint-Esprit. Souvent, il voit une proie en dessous. Puis, du coup, il attend statique. Puis après, il rabat ses ailes et il fait comme une grosse pierre qui tombe. Moi, à chaque fois, je les reconnais quand ils font du surplace. C'est En tout cas, on en voit pas mal. En fait, ils rabattent leurs ailes, c'est même pas, ils vont plus vite que quand ils battent des ailes à fond. Ils fondent carrément sur leur proie et puis bah, après, ils les attrapent, je sais pas trop, mais ils rabattent leurs ailes et c'est comme une fusée vers le bas.
On est très choqué par des gens qui parlent de nous sans savoir, sans bien savoir. Alors, tout ça, on n'aime pas. Après, moi, je vais vous dire aussi une chose. On ne veut pas retrouver la pénibilité du travail qu'on a connue chez nos parents et nos grands-parents. Toutes ces nouveautés-là, qui sont apparues d'ailleurs avec les confinements, avec le Covid, hein, qui ont repris du poil de la bête devant l'opinion publique citadine, eh bien, c'est derrière, il faut savoir qu'il y a, notamment de la part des femmes, un travail physique très important. Alors le bio, si on veut en parler 5 minutes, pour moi le bio, ça ne correspond pas à mon style, parce que moi, je suis né avec la mécanisation après-guerre et la modernité. Donc, sitôt qu'il y a un bruit de moteur, ça me plaît. Sitôt qu'il n'y a plus de bruit de moteur, alors, j'ai un cousin, il vient de s'installer en Normandie, il s'est acheté un baudet. Bon, ouais. Bon, je le respecte, hein, mais pour moi, ce n'est pas un beau bruit, quoi. C'est pas un Sicilane qui tourne. Oh, on rigole. Mais moi, je suis né avec la modernité. Et le retour à des méthodes un peu ancestrales me, pas me hérisse, parce que chacun a le droit de faire comme il veut, mais ça correspond pas à mon style, quoi. Hein. Mais je soupçonne mon fils d'être prêt le jour venu. Comme ça que ça se passe aussi, hein, les générations, elles passent et elles trépassent. Hein. Alors la transmission ici, bah, elle s'est faite assez facilement, puisqu'elle s'est étalée sur 6-7 ans, quoi. Hein. Mais maintenant, je viens encore beaucoup l'aider. Mais bon, on est arrivé à un stade où bon, peut-être qu'il faut revenir en arrière, mais j'ai pas encore baissé mes armes, hein, mais tout ça m'inquiète beaucoup, et je sais qu'on va devoir évoluer, c'est évident. Mais de grâce qu'on nous laisse la modernité. Hein. De grâce, hein. Il n'est pas question de voir passer un copain sur la route avec son iPad accroché sous le bras et puis c'est son comment pour la radio, là, hein. Pendant que nous, on est revenus à genoux, à quatre pattes par terre, parce qu'on nous a dit qu'il faut revenir comme ça. Hein. Ou alors, le produit qu'on va faire, il faut qu'il soit très, très, très cher. Et pour moi, le bio, il n'est pas assez cher. Hein. Pourquoi le producteur de bio, il doit toujours avoir l'air d'un pauvre? Si c'est dur, ça doit être payé. Ça doit être payé. Parce que là, aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer depuis un an, là, les gens, ils sont en admiration devant les marchés locaux, etc. Mais j'ai écouté une émission l'autre jour sur une femme qui se levait à 6h du matin, devait ranger ses gosses, etc., de traire les billes. Mais enfin, cette femme était admirable. Admirable. Fait son mari aussi, d'ailleurs. Hein. Puis après, foncer en bagnole faire le marché, avec le sourire, même si c'est pas le jour qu'elle a envie de sourire. Chapeau, les paysans. Hein. Chapeau, ces paysans-là. Moi, je les admire. Hein. Moi, si on me propose un schéma, si j'avais 40 ans, qu'on me proposait un schéma comme ça, je m'allais conduire un autobus à Boulogne. J'ai toujours rêvé de conduire un autobus.
J'adore me baigner quand il pleut. C'est extraordinaire de nager quand il pleut. Chaque goutte d'eau tombe dans l'eau, rebondit. Et c'est comme des... On est comme entouré de diamants. C'est absolument magique de nager sous la pluie. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de grandir avec... des parents et en particulier ma mère qui aimait nager et n'avait peur de rien et n'avait peur de rien pour ses enfants. Et donc on a appris à nager loin sans aucun sens du danger. Moi j'avais des grands frères, j'ai appris à nager assez tard, mais je suivais mes frères et je savais que bah, quand j'étais fatiguée, bah, je pouvais m'accrocher à l'un d'eux, le tenir par la taille et puis il me tirait et puis il me disait tape des bas des pieds au moins participe un petit peu, mais il pouvait me tirer si j'étais fatiguée. Donc j'ai appris à nager loin tout en étant en sécurité. Et toute ma vie j'ai toujours nagé loin. En fait, moi j'aime bien, je nage jamais parallèle à la mer. Alors là, ça m'intéresse absolument pas de nager parallèle à la plage. Ça m'intéresse absolument pas. Il faut que je nage loin. Et j'adore nager loin. Et puis c'est immense, et puis ça vous embrasse. Et, Et c'est quelquefois doux, c'est quelquefois fort. C'est jamais méchant. Quelquefois, je me dis, un de ces jours, je vais me noyer. C'est comme ça que je vais finir ma vie. J'aurais probablement très peur. Mais bon, ça ne sera pas une mauvaise mort. Mon frère est mort en mer, en plongeant. Il est resté au fond de l'eau en plongée, il y a 25 ans de ça. Mais c'était l'endroit où il était le plus heureux, sous l'eau. Donc c'était pas un mauvais endroit où mourir. Il disait tout le temps, moi au fond de l'eau je suis heureux. Donc un jour il est resté au fond de l'eau.
Ici. Parce que par là, ils crèvent de faim. perte. Mais c'est pas le cas, par exemple, au Sahel, en Afrique, etc., où les sécheresses, bah, ils sont en train de les payer cash, déjà. Et ça, ça va se multiplier par 10 dans les années à venir. Faut pas se voiler la face. Encore une fois, c'est global. On est sur un système global. Et les conséquences sont globales aussi, en fait. Donc on a tout intérêt à tout faire pour que ça n'arrive pas, en fait, pour tout le monde. Parce que c'est pas un plaisir pour les gens de devoir quitter leur pays, qui que ce soit. Donc voilà.
Quand je suis arrivé ici, y avait les plus vieux agriculteurs qui me disaient... Tu sais, avant, on avait 3 dunes avant d'arriver à la mer. Je ne les croyais pas, parce que nous, on avait une belle dune et basta. Aujourd'hui, on n'a plus la belle dune. Il nous reste juste un petit cordon qui ne fait rien, qui n'est même pas capable de supporter la prochaine grande marée. Et l'avoir vu comme ça, notamment la tempête Sierra, où on a perdu, je crois que c'est 18 mètres, uniquement sur la tempête. C'est là, franchement, ça fait peur. Ça fait peur. Et c'est fou de l'avoir vu changer comme ça en 35 ans. Là, on est à quoi ? À 300 mètres du bout de la prairie et on est à 500 mètres des premières vagues. Donc, on ne peut pas beaucoup être plus près. La distance, c'est une chose, mais il y a aussi la hauteur. Il y a moins d'un mètre entre là-bas et puis là où on est ici. Donc, lors d'une grosse tempête, moi j'ai mes bottes, donc je vais réussir à partir, mais vous n'arriverez peut-être pas à partir devant la vague. L'eau, l'immensité de la mer, je veux dire, le marais de Tarnagan, c'est tout petit. Donc l'eau, elle va s'épancher. Et puis malheureusement, ces prairies-là, quand elles auront fait... elles auront pris un bain d'eau salée, c'est mort. Et puis si ça revient régulièrement, c'est... On s'est fait une raison depuis un an. On a encore cru longtemps que, la mer, c'est pas pour tout de suite. Et de toute façon, quand j'ai fait le dernier bâtiment il y a 5 ans, le maire a délivré le permis de construire. Il a dit, Bernard, fais gaffe quand même, parce que d'ici 20 à 30 ans, la mer sera là. Bon, ça, c'était il y a 5 ans. Et il y a un an, le même maire, quand on a demandé pour faire un séchoir, il dit non, je peux toujours te délivrer le permis de construire, mais je le fais pas, parce que tu es condamné. Il se peut que dans un an, la mer soit là. J'ai dit, arrête, oui, mais depuis un an, on est bien forcé de constater que c'est mort. Et on espère trouver... un point de chute, on va dire, tout près pour continuer à faire paître les vaches dans ce paysage quand même qui en vaut la peine. Même si le climat est rude, les vaches le supportent bien, donc les hommes vont s'y adapter.
Sur ma parcelle, du coup, il y a un bois au nord. Et du coup, on avait retrouvé... j'avais retrouvé des migrants dedans et ils sont dans un état de... Ils sont effrayés, en fait. Je voyais les ânes ronfler et s'inquiéter et regarder dans la forêt. Je me suis dit, il y a quelque chose, je vais aller voir. Et en fait, Nala est partie avant eux. Puis Nala, quand elle voit du monde, elle leur fait la fête et tout ça. Donc Nala étant mon chien. Et ils se sont mis à hurler en voyant Nala arriver sur eux, alors que elle n'est pas grande, elle est petite, elle n'a même pas aboyé, elle venait faire la fête. Et je ne sais pas ce qu'ils ont croisé sur la route, mais ils étaient en panique, quoi. Donc je l'ai rappelé, etc. Et les gendarmes arrivaient à ce moment-là pour les évacuer. Mais ouais. Puis le pire, c'est... Donc je raconte ça dans ma famille, ce qui était arrivé, et comme quoi ça m'avait touchée, ça me faisait mal au cœur. La première chose qu'il dit, c'est oh, « t'as eu de la chance qu'il te soit rien arrivé, etc. » Et je dis « je pense que c'est le cadet de leurs soucis, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, quoi ?» Ils se cachent. Les mecs, la dernière chose qu'ils cherchent à faire, c'est de se faire repérer ou de faire quoi que ce soit. J'ai plus peur des passants qui s'introduisent sur ma parcelle, des gens du coin que je connais pas et qui se permettent tout et n'importe quoi en venant me voir sur ma parcelle pour m'expliquer mon métier, que de pauvres migrants qui étaient là tapis sur leur sac de couchage, trempés dans des flaques pour se cacher et qui avaient peur de mon chien, quoi. Toute cette mentalité aussi autour de ils volent, ils violent, machin. Où, à quel moment les gars, tout ce qu'ils font, c'est ils ont traversé l'Europe, ce serait pour venir te voler une tomate et puis te violer. Excuse-moi, faut être sacrément motivé. Hein. Et alors qu'après, on sait très bien qu'ils vont finir par crever dans la mer, quoi. On se rend pas forcément compte, et c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui a été dans la région, quelque chose qu'on essaye de cacher, dont on parle pas trop, ou... Ouais, c'est... Moi, je comprends pas comment on peut laisser faire ça dans un pays développé comme le nôtre. Ouais, c'est honteux, et surtout tout le travail que les associations peuvent faire dans le coin, et on les voit qu'on leur interdit de proposer des soins, etc. Donc on leur interdit le minimum de décence qu'on serait censé leur fournir, que l'État même devrait fournir. C'est des associations qui s'en chargent parce qu'ils ne sont pas foutus de faire le boulot. Et on arrive à s'en prendre aux associations quand on ne s'en prend pas directement aux migrants, quoi. Ouais, c'est une drôle d'ambiance. Hein. Dans un si beau paysage, c'est assez dégueulasse.
J'ai appris ce matin qu'au Vietnam, il y a une énorme grotte. Ça fait un trou et il y a des énormes stalagmites. Ça fait 9 km. Elle abrite ses propres nuages et il y a sa propre rivière et tout. Il y a une micro-jungle. Et moi, je voudrais explorer ça. Et puis après, découvrir les gens de là-bas. Parce que c'est quand même pas pareil. Je sais pas, les plats, tous les trucs traditionnels. Mais aussi, un truc que j'aimerais bien voir, c'est la végétation et les animaux. Parce que ça, c'est cool. Quand découvrir ça, c'est cool. Parce que ici, bah, les animaux, j'en connais beaucoup. Alors là-bas, je pourrais découvrir plein de trucs. Mais moi, j'aime bien. Parce que c'est quand même très différent de chez nous. Mais, enfin, je voudrais surtout découvrir une autre culture. Parce que ici, bah, c'est trop bien, mais bah, c'est bien là, aussi de changer. Enfin, ouais, je voudrais changer d'univers.
Et donc tu partiras en bateau?
Ouais, en bateau. Ou alors un montgolfière ou un dirigeable.
Il faut que le vent soit dans le bon sens. Hein.
Ouais.
Voilà. Nous arrivons maintenant presque à la fin. Si tout s'est bien passé, vous devez être face à la baie, juste à côté de l'église. J'espère que le ciel est dégagé et que l'opale de la mer rejaillit jusqu'ici. Et que cette heure, passée avec nous, vous aura été agréable. Vous avez pu entendre les voix de Kevin Ouimé, Jacques Delattre, Justine Berthoud, Maya Conforti, Bernard Boulet, Théophine et Valentine Darras. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait découvrir ce merveilleux site des Deux Caps et nous ont donné de leur temps. Daniel Alexandre, Séverine Bastien, la famille Boulet, Gonzague Calais, Damien Delattre et Thibaut Segar. La carte qui vous a guidé durant la balade a été conçue par Aurélie Pascal. Merci à toute l'équipe du Chanel, scène nationale de Calais, d'avoir rendu ce projet possible. C'était Le Sens du Vent, une randonnée sonore et documentaire du collectif La Cavale.